Vous savez, quand on parle de l'avenir économique de l'Afrique, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu un peu deux discours, deux récits qui s'opposent en permanence.
Ah oui, complètement. D'un côté, on a la vision presque euphorique.
C'est ça, le continent jeune, ultra connecté, qui saute les étapes grâce à la tech.
Et de l'autre, le discours beaucoup plus sceptique.
Qui nous rappelle les fragilités, l'instabilité, les infrastructures. Et franchement, c'est difficile de savoir où se placer entre les deux.
C'est le grand écart permanent. Et le problème, c'est que ces deux caricatures, elles nous empêchent de voir la réalité du terrain, qui est souvent bien plus nuancée et finalement beaucoup plus intéressante.
Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va plonger dans des sources qui essayent justement de dépasser ces clichés. Notre document de base, c'est un dossier spécial de la publication Eco-Business du 16 février 2026.
Et qui s'appuie sur du solide.
Oui, le baromètre de l'industrie financière africaine 2025, une étude menée par Deloitte et l'African Financial Services.
Ce qui est précieux avec ce genre de document, c'est qu'il ne commente pas juste l'actualité. Il va directement interroger des centaines de dirigeants.
Des banques, des assurances.
Exactement. Sur tout le continent. Du coup, on a accès à leurs stratégies, leurs craintes, leurs priorités. C'est une vraie radio de la salle des machines.
Notre mission, c'est donc de faire parler cette radio. Qu'est-ce qu'elle nous dit vraiment sur la maturité du secteur financier africain? On va essayer de voir ce qu'il y a sous le capot. Et la première chose que le rapport met en lumière, c'est une conclusion assez forte. La grande phase d'expansion un peu euphorique, c'est terminé.
Oui, cette époque de croissance folle, la course à la bancarisation de masse, l'explosion des fintechs, cette période-là est derrière nous.
Mais c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ça sonne un peu comme un coup de frein?
Attention, c'est là que c'est subtil. Le rapport est très clair. Ce n'est pas du tout une crise ou un ralentissement, c'est une transition. Pour faire une analogie, c'est comme si le secteur passait de l'adolescence, avec ses poussées de croissance un peu désordonnées.
À l'âge adulte.
Voilà, exactement.
L'âge adulte. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un secteur financier?
Moins de fêtes, plus de responsabilités.
C'est un peu ça. Moins de croissance à tout prix et plus de consolidation stratégique. C'est le terme du rapport. Concrètement, ça veut dire qu'on passe d'indicateurs purement quantitatifs.
Le nombre de millions de comptes ouverts, par exemple.
Oui, ou le nombre de téléchargements d'une app, à des indicateurs beaucoup plus qualitatifs. La rentabilité réelle d'un client, l'efficacité, la gestion des risques.
D'accord. Donc on se demande plus seulement combien de gens ont un compte, mais plutôt qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment faire avec ce compte? Et surtout, est-ce que le modèle est viable à long terme? C'est exactement ça. Le focus n'est plus sur l'acquisition, mais sur la valeur. C'est un signe de maturité fondamentale. D'ailleurs, il y a une formule dans le rapport qui résume ça parfaitement. Je cite: L'Afrique entre dans l'âge adulte de son développement financier. Moins spectaculaire, plus exigeant, mais aussi plus crédible.
Tout est dit. La phase des slogans est terminée, place à celle des preuves.
C'est ça.
Mais alors, sur quoi ils se basent concrètement pour affirmer ça? Quels sont les signes qui ne trompent pas? Le baromètre a 10 indicateurs, mais concentrons-nous sur les plus parlants.
D'accord.
Et le premier, c'est une vraie surprise. La préoccupation numéro un des dirigeants financiers n'est ni l'inflation, ni l'instabilité politique. C'est la cybersécurité.
Oui, et ça, c'est un chiffre qui dit énormément de choses. Il y a 5 ans, ce sujet n'était même pas dans le top 10.
Attendez, la cybersécurité devant l'inflation, c'est complètement contre-intuitif. On est bombardé d'infos sur les difficultés macroéconomiques et eux, leur plus grande crainte, c'est le piratage.
Ce qui est fascinant, c'est que cette donnée est en fait une arme à double tranchant. C'est à la fois une preuve de succès et un aveu de faiblesse.
Ah oui.
D'un côté, si la cybersécurité est devenue un tel enjeu, ça veut dire que le secteur est assez numérisé, assez riche en données, assez intégré à l'économie mondiale.
Pour être une cible qui vaut le coup.
Une cible crédible et juteuse. Oui, on ne pirate pas des systèmes qui ne valent rien.
Donc c'est presque un bon problème à avoir en quelque sorte.
Le signe qu'on est devenu important, c'est un peu la rançon du succès, oui. Mais de l'autre côté, et c'est là que le rapport parle de révélateur brutal, ça montre que les défenses, elles, ne sont pas encore au niveau de la menace.
Je vois.
Le secteur a franchi un seuil. Il est assez avancé pour être vulnérable, mais pas encore assez armé pour se défendre sereinement. Et on ne parle pas juste de voler de l'argent.
On parle de la confiance.
Exactement. La confiance dans tout le système. Si les données ne sont pas en sécurité, tout l'édifice de la finance numérique s'effondre.
C'est très clair. Le deuxième indicateur de cette maturité, c'est le retour d'un mot qui était parfois un peu tabou, la rentabilité.
Absolument. Pendant des années, on a opposé rentabilité et inclusion financière, comme si c'était incompatible.
Il y avait cette idée que pour bancariser les plus modestes, il fallait accepter des modèles économiques précaires.
Voire subventionnés. Aujourd'hui, le baromètre montre un changement de logiciel complet. La rentabilité est de nouveau au cœur des priorités.
Mais est-ce qu'on ne risque pas, en se focalisant sur la rentabilité, d'abandonner justement cette mission d'inclusion? De ne servir que les clients faciles?
C'est la question cruciale. Et la réponse du marché maintenant est très claire. Tout le monde a compris qu'une inclusion qui ne gagne pas d'argent, eh ben elle n'est pas durable.
Elle est fragile.
Elle est fragile, dépendante de financements externes. On passe donc d'une inclusion quantitative à une inclusion qualitative.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'au lieu de juste donner accès à un service de paiement de base, l'enjeu maintenant, c'est de proposer des services viables sur le long terme.
Comme des micro-assurances, du crédit.
Du crédit structuré, de l'épargne, de l'éducation financière. Des services qui créent de la valeur pour le client, mais qui sont aussi rentables pour l'institution. C'est la seule façon de construire un système solide. Et il y a une phrase très forte dans la source qui résume ça. L'émergence ne sera pas philanthropique, elle sera structurelle ou ne sera pas.
Elle sera structurelle ou ne sera pas. C'est limpide. Troisième thermomètre, l'intégration continentale. On entend beaucoup parler de la ZLECALF.
La fameuse zone de libre-échange.
Ou du PAPSS, le système de paiement panafricain. Alors, c'est du concret ou ça reste du marketing politique?
Le baromètre montre une réalité, disons, très contrastée. Oui, il y a des progrès, c'est indéniable. Envoyer de l'argent du Kenya au Ghana, ça coûte moins cher qu'avant.
D'accord.
Mais ces progrès sont lents, très inégaux, et souvent freinés par un mur d'obstacles réglementaires. Chaque pays, chaque zone monétaire a ses propres règles. L'harmonisation est un vrai casse-tête.
Donc, l'idée d'une Afrique qui décolle comme un seul bloc, c'est un mythe. La réalité, ce serait plutôt un archipel d'émergence.
C'est une excellente image. C'est exactement ce que dit le rapport. L'émergence ne sera pas uniforme et simultanée. Elle se fera par bloc. La formule exacte est « elle sera régionale avant d'être continentale, sectorielle avant d'être globale ».
On verra donc des pôles d'excellence émerger, en Afrique de l'Est sur les paiements, en Afrique de l'Ouest sur les marchés de capitaux.
C'est ça, bien avant que tout le continent soit au même niveau.
Solide. Pour rendre ça plus concret, le dossier d'EcoBusiness analyse un cas qui peut paraître hyper technique, mais qui est fascinant, la création par JP Morgan d'un nouvel indice obligataire.
Oui, et c'est un point absolument crucial pour comprendre comment un continent peut s'intégrer à la finance mondiale. La clé ici, c'est que cet indice est consacré à la dette des États africains qui est émise en euros, monnaie locale.
Pourquoi est-ce que ce détail monnaie locale est si important ?
Parce que c'est ce qu'on appelle parfois le péché originel des marchés émergents. Pendant des décennies, pour attirer les investisseurs, les États devaient s'endetter en dollars ou en euros.
Ce qui les exposait à un risque de change énorme.
Colossal. Si votre monnaie locale baisse face au dollar, le poids de votre dette explose mécaniquement. Ça a provoqué des crises terribles. S'endetter dans sa propre monnaie, c'est une forme de souveraineté.
D'accord, je comprends le problème. Mais en quoi un simple indice créé par une banque à New York peut changer ça?
Parce que le mécanisme de ces grands indices est incroyablement puissant. Dans le monde, il y a des milliards de dollars gérés de manière passive.
C'est-à-dire?
Ce sont des gigantesques fonds de pension, des assureurs. Leur seule stratégie est de répliquer la composition d'un indice de référence, comme ceux de JP Morgan. Ils n'analysent pas chaque pays un par un.
Ils suivent une recette, en gros.
Voilà. Si une obligation du Nigeria entre dans l'indice, ils l'achètent, automatiquement.
C'est fou. Ça veut dire que des milliards peuvent se déplacer vers un pays sans même qu'un gestionnaire ne prenne une décision active, juste par automatisme?
Exactement. Et cette demande nouvelle, structurelle et mondiale, a deux effets magiques. D'abord, ça augmente la liquidité du marché. Il devient plus facile d'acheter et de vendre. Et surtout,
les taux d'intérêt baissent.
À terme, oui. Cette forte demande exerce une pression à la baisse sur les coûts d'emprunt. Plus il y a d'acheteurs, moins le taux que vous devez payer est élevé. Le rapport a une formule très juste pour ça. Dans la finance internationale, être indexé, c'est déjà exister. Si vous n'étiez pas dans un indice, pour une large partie des capitaux mondiaux, vous êtes invisible.
Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour un pays, disons, d'Afrique de l'Ouest, qui voudrait profiter de ça?
C'est à la fois une opportunité immense et un défi de taille. L'opportunité, c'est un financement moins cher, plus stable, pour construire des routes, des écoles.
Et sans ce fameux risque de change?
C'est énorme, oui. Mais c'est aussi un défi parce que, pour être inclus dans cet indice, il y a un cahier des charges très strict. Il y a des conditions à remplir.
Ah, ce n'est pas automatique.
Pas du tout. Le rapport les détaille bien. Il faut une taille minimale pour les émissions d'obligations, il faut un certain niveau de liquidité, et surtout il faut des standards élevés de transparence, de publication des chiffres.
De prévisibilité de la politique économique.
Voilà, donc cet indice, ce n'est pas juste un outil pour investisseurs. Il agit comme une feuille de route pour les gouvernements. Il leur dit, voici les réformes à mener si vous voulez vous intégrer à la finance mondiale.
Donc cet indice, ce n'est pas juste un thermomètre qui mesure l'état du marché. C'est aussi une sorte de coach sportif qui vous pousse à vous améliorer.
C'est une excellente analogie. C'est un puissant levier d'amélioration. Et c'est un exemple parfait de cette maturité exigeante dont on parlait.
Si on fait la synthèse, le grand enseignement, c'est que le récit sur la finance africaine change vraiment de nature. On sort de l'ère des promesses, qui était basée sur le potentiel, la démographie.
Pour entrer dans l'ère des preuves.
Exactement. L'ère des preuves, basée sur la performance, la gouvernance, la gestion des risques, c'est peut-être moins glamour.
Moins spectaculaire, c'est sûr.
Mais c'est infiniment plus crédible. On est en plein dans une maturité en construction.
C'est tout à fait ça. Et ça nous amène à la conclusion la plus intelligente du rapport, je trouve. Il suggère que le vrai débat aujourd'hui, ce n'est plus de savoir s'il faut être afro-optimiste ou afro-pessimiste, c'est un faux débat.
Une simplification.
Qui ne mène nulle part. Le rapport dit que le vrai clivage, la vraie différence, se situe entre ceux qui acceptent la complexité de sa trajectoire et ceux qui s'en tiennent aux caricatures.
J'aime beaucoup cette idée.
La réalité est complexe, faite d'avancées incroyables et de freins frustrants, parfois au sein du même pays, et c'est cette complexité qu'il faut embrasser.
Accepter la complexité plutôt que de choisir un camp. C'est une belle conclusion.
Et ça soulève une dernière question, une question pour la réflexion, qui va un peu au-delà de nos sources.
On vous écoute.
Si la véritable mesure de l'émergence, comme on vient de le voir dans la finance, n'est plus la vitesse de la croissance, mais la robustesse de la gouvernance et la qualité de la gestion des risques, quels autres secteurs de l'économie africaine, au-delà de la finance, pourraient être en train de vivre cette même transition silencieuse, loin des grands titres et des discours enflammés ?